Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui de Giscal, comme d'habitude. Salut Giscal.
Salut RM, salut tout le monde.
Et de Raphaël.
Presque comme d'habitude, ça commence à devenir une habitude.
Ouais, oui, on commence à voir nos équipes types. Déjà, je voudrais remercier tous nos auditeurs pour le numéro spécial qu'on a fait la semaine dernière, le Top et Flop 2016 de la WWE. On n'avait pas fait, on n'avait pas couvert les weekly comme annoncé. C'était un peu la bye week, hein, c'était un peu la semaine off pour l'équipe. Mais pour autant, on a craqué, on a quand même fait un numéro. C'est un numéro spécial, nos top et nos flops. Vous avez été nombreux à écouter ou à regarder parce que c'était la première fois qu'on faisait de la vidéo. Donc en plus, vous avez eu en bonus notre ogne, hein, notre ronche. Donc voilà, merci à tous pour vos commentaires. En plus, ça fait vraiment plaisir d'avoir comme ça un retour de nos auditeurs. Donc bah, je vous invite à continuer, à vous abonner soit sur YouTube, soit sur iTunes, ou alors même sur la page Facebook si vous voulez suivre et ne manquer aucun numéro. Alors on va, bah voilà, donc nouvelle année, bonne année à tous, bonne année Giscal, bonne année Raphaël. Et bonne année à nos auditeurs. Bon, hein.
Une nouvelle année de cash. Les fêtes ont été bonnes. Hein.
Ouais. C'est bien passé. Pour vous, est-ce que vous avez des cadeaux à Noël de type catch? Parce que on sait que l'ami Hank a eu un magnifique poster de Triple H.
Mais non, c'est vrai que j'ai pas eu de cadeaux catchesque. J'ai pas encore démocratisé suffisamment ma passion dans ma famille, je pense, pour avoir des cadeaux catchesques.
Ah, je pense que Raphaël va nous montrer quelque chose parce que là, on a la vidéo.
Et oh. L'âge d'or du catch.
Ah ouais, de 1920 à 1975. Bah, dis-nous en plus, là, Rafa, c'est quoi ce beau livre?
C'est un cadeau d'expert, ça.
On se croirait dans un téléachat. Eh bien, c'est un livre que j'avais repéré en allant faire mes courses de Noël à la FNAC, et dont j'ai soufflé de moi ma famille et qui m'a été acheté. Donc, c'est uniquement sur le catch français. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu.
Ouais, c'est pas mal. On voit à peu près le titre, hein.
Donc si on a une question le catch français dans la première moitié du siècle, du 20e siècle, on peut te poser des questions.
Voilà, vous pouvez désormais. je n'ai pas tout lu. Bon, il y a certainement des photos, mais c'est
l'ange blanc, Hercule, c'était ça, non, à l'époque?
Tout à fait. Alors, oui, non, je disais, il y a toutes sortes de photos avec des nains, des géants, André le géant,
André le nain,
le bourreau de Betty. Ah non, il n'y a pas André le nain.
C'était la belle époque, l'âge d'or.
Bon, bah, je vois que vous avez été gâté. Enfin, jusqu'à je ne sais pas, mais.
Raphaël, si, j'étais gâté, mais bon, pas de cadeau catch. Pas de catch, non.
Moi, je vous montrerai la prochaine fois ce que j'ai eu. Là, je ne l'ai pas sous la main. Je tease un petit peu pour le numéro de la semaine prochaine. Bon, voilà. Eh ben, on va retourner à nos affaires habituelles. Hein. Donc, bah, une nouvelle année, hein, pour la WWE. On se souvient que la semaine dernière, ça s'est terminé chaudement, hein, avec le dernier numéro de SmackDown que nous n'avions pas couvert. On va voir un petit peu les répercussions que ça a eu cette semaine. Puisqu'il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont déroulées ce 3 janvier 2017 à Jacksonville, en Floride. Donc, au menu, ça baffe dans les vestiaires. Ziggler rejoint le côté obscur de la force, hein, c'est un peu d'actualité. Dean Ambrose joue de ses relations lors du match pour le titre intercontinental. La division féminine a la grippe aviaire, je vous dirai pourquoi. Le baron nous spoil carrément la fin du Royal Rumble. Et Because John Cena. Alors, voilà qui va faire plaisir à la musique.
Tout simplement.
Alors, c'est le Miz qui ouvre cette nouvelle année, accompagné de la sublime Maryse et de la tout autant sublime ceinture intercontinentale. Donc le Miz, hein, champion intercontinental en titre. On nous rediffuse quelques images des semaines passées. Hein, le Miz qui provoque René Young, qui s'est pris une bonne baffe. Et la semaine d'après, Dean Ambrose, qui est venu donc lui donner une petite leçon dans les vestiaires. Ce soir, donc, les deux vont s'affronter pour le titre, hein, Dean Ambrose et le Miz. Mais en attendant, le public donc, peut admirer, hein, le couple le plus hype du moment. Et le champion le plus prestigieux, hein, qui a redonné tout son prestige à la ceinture. Voilà, le Miz dit qu'il a une résolution, il va être pardonné un peu plus souvent cette année, voilà. Mais qu'avant, quelqu'un lui doit des excuses. Évidemment, ces excuses, il les attend de qui? Bah de Renée Young, hein, qui l'avait baffé il y a 2 semaines, celle qui l'a giflé, mais elle préfère, qui l'a giflé la semaine dernière, parce que Renée Young, c'était, non, c'était il y a 2 semaines, pardon, je m'embrouille.
Ouais, 2 semaines. Ouais.
Voilà, il s'est pris une gifle de Dean Ambrose la semaine dernière. Mais
voilà,
Renée Young préfère visiblement rester cachée dans les vestiaires, hein, faire un peu profil bas, c'est low profile. Hein. Là, une petite pique hein, du Miz évidemment, hein, qui en profite pour lui sous-entendre qu'elle ferait des dirty deeds avec Dean Ambrose, hein, si j'ai bien compris. Mais il en faut pas plus pour le Lunatic Fringe, hein, Dean Ambrose qui débarque. Hein, voilà, on n'insulte pas comme ça sa bien-aimée. Mais le Miz, une fois de plus, utilise donc Maryse comme bouclier humain. Et Dean, donc, à un moment donné, donc, ne peut que donc, observer le Miz se retrancher dans les vestiaires. Et il balance, alors j'ai un peu mal compris à ce moment-là, il balance que c'est Maryse qui est la plus hard du couple. Ou...
Bah, en fait, il lui dit que c'est Maryse qui frappe le plus fort, en fait, en référence à la baffe qu'il avait prise de Maryse.
Voilà.
Parce que Maryse, du coup, lui rend la baffe que Renée Young avait mis il y a 2 semaines à son mari. Donc, voilà.
Voilà, il faut suivre hein, qui donne des baffes à qui dans cette rivalité. Voilà, semaine A, semaine B, père impair, voilà. C'est les femmes, c'est les hommes. Voilà. On donne des claques. Voilà, c'est la nouvelle activité que deux couples veulent passer une bonne soirée ensemble. On se met des bonnes baffes. Je m'arrête là concernant cette rivalité, puisqu'elle viendra clôturer l'épisode via le main event hein, que je vous ai annoncé au début, hein, avec le titre qui est en jeu. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette séquence d'ouverture ? Giscal, peut-être ?
Écoute, pas énormément. C'était un bon petit segment d'intro. On a retrouvé notre connard préféré, le Miz, en 2017, qui est toujours aussi efficace. Hein. Il a cette faculté imperturbable à se faire détester de tout le monde dès qu'il ouvre la bouche. Donc, et puis bah voilà, cette petite rivalité commence à bien monter. Le segment était pas mal. On rappelle un peu les événements. Ambrose, bah comme tu l'as dit, voilà, Ambrose se prend la gifle de Maryse, donc écho d'il y a 2 semaines. La petite punchline de Ambrose pour bien finir, et puis bon bah la suite maintenant au main event. Donc j'ai aussi bien aimé le fait que ça dure pas trop en longueur. C'était bien concis, ça a bien planté le décor. Donc bon boulot.
Rafa.
Ouais. Tout à fait d'accord. Le Miz a beaucoup parlé, Dean Ambrose très peu, et c'est ce qu'il faut comme proportion, ouais. Je pense, de cette rivalité.
Très bien, bah écoutez, on verra les suites de cette rivalité donc à la fin de cet épisode. En attendant, on avait un match qu'on a déjà eu hein, par le passé, bah, c'était je pense en début de l'année 2016 probablement, Ziggler contre le Baron, voilà, donc qui étaient pris tous les deux dans un super match la semaine dernière du coup, puisque c'était un match pour le titre suprême avec AJ Styles, un match dantesque hein, qui pourrait figurer très bien dans le petit top 10 2016. Donc c'est une superbe façon de clôturer l'année. Évidemment, AJ Styles est ressorti vainqueur de cet affrontement. Donc voilà, donc on a un match entre Ziggler et le Baron. Donc bah, Ziggler hein, qui est en feu, hein, évidemment, comme d'habitude, il attaque direct, mais Baron Corbin ne se laisse pas faire. Hein, il évite les tentatives de dropkick de Ziggler. Hein, il reprend le contrôle. Hein, ça se balance dans les coins à tour de rôle. Ziggler est à terre. Hein, il tente de se relever, mais il se mange un énorme back elbow dans la tronche. Tentative du Baron, hein, mais ça ne va juste que simplement 2. Ensuite, Baron Corbin maintient Ziggler dans les cordes hein, et l'envoie à nouveau au sol. Donc Baron Corbin qui vraiment fait un gros travail là sur Dolph Ziggler pour le mettre à terre. Ziggler parvient enfin à reprendre un petit peu le contrôle hein, avec voilà un coup de coude et un gros coup de pied dans la tronche. Il arrive enfin à placer son dropkick. Donc Baron Corbin s'enfuit hein, du ring. Hein, il s'énerve. Hein, le Baron il est plutôt bougon. Il n'aime pas que ça se passe comme il veut. Le Baron, il a son petit caractère. Hein, ça, à non pas douter. Donc là, on a une petite coupure pub. Baron Corbin a repris le contrôle hein, du match. Il tente hein, à plusieurs fois de verrouiller un peu Dolph, de l'empêcher de placer tous ses mouvements. Dolph Ziggler parvient à s'échapper, mais le baron lui met une bonne droite dans la tronche. Il tente à nouveau le tomber, ça ne passe pas. Il en faut quand même un peu plus hein, pour vaincre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler se rebiffe, corner splash, neck breaker. Donc ça commence un peu à se chauffer tout ça. Le rythme s'accélère, elbow drop pour Dolph Ziggler. Mais le baron contre, beaucoup de contre, hein, les deux se connaissent. Il contre le fameux Fame Hacer de Dolph Ziggler. Et là, boum, grosse clothesline. Ça doit faire mal, hein. J'aimerais pas me prendre une. Voilà, le baron donc continue comme ça à charger Dolph. Mais Ziggler évite tant que possible les différentes attaques du baron. Malheureusement pour le baron, Dolph Ziggler parvient à placer son Fame Hacer enfin. Pour le compte de deux, ça ne passe pas. Tentative de zigzag, mais le baron contre. Ziggler revient. Tentative de tomber. Mais Ziggler finit piégé dans le fameux end of days du baron. Et là, c'est un finisher sur lequel on ne se relève pas. 1, 2, 3, victoire du baron qui s'empare d'une chaise pour terminer le boulot. Mais, alors là, une musique mexicaine retentit. Laquelle, c'est celle de Kalisto, Lucha 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 Finks. C'est Kalisto qui intervient, mais ce n'est pas du goût du blondinet. Hein. Super kick dans la tête au Mexicain de Dolph Ziggler, de la part de Dolph Ziggler. Colère noire hein, de l'éternel loser hein, qui n'a pas vu ça d'un très bon œil l'intervention du Mexicain. La colère continue hein, dans les vestiaires hein, où quelques jobbers tentent de calmer Dolph, mais il se prend un gros coup de boule en réponse.
C'est Apollo Crews.
Apollo Crews qui se prend, merci Giscard, le coup de boule. Hein. et ça se termine donc comme ça, en tout cas en ce qui concerne Dolph Ziggler. Alors, gros match, hein, clairement le baron... on garde le momentum concernant le baron et on a enfin les prémices du fameux heel turn tant attendu de Dolph Ziggler. Raphaël, qu'as-tu pensé de ce match et du positionnement de Dolph qui s'annonce pour cette nouvelle année?
Le match était très bon, effectivement. Là, on a vu, on l'avait vu déjà la semaine dernière, mais la progression du baron et comme on a la même rivalité qu'il y a un an, on voit vraiment que le niveau a vraiment monté d'un cran, très spectaculaire rencontre. Effectivement, comme tu l'as dit, le End of Day, je pense que personne s'en est relevé pour le moment à la WWE. D'ailleurs, c'était assez, je trouve, dans un weekly, en milieu de weekly, quand il y en a un des deux qui se relève du finisher de l'autre, puisque Corbin a encaissé un zigzag, ça m'a fait penser un peu à Jericho et Roman Reigns. Maintenant, Roman Reigns se relève des... du code breaker, donc c'est qu'il y en a un qui a un finisher meilleur que l'autre. Et donc la victoire est logique, et après, ça sent le heel turn, effectivement, si on en croit les bonnes vieilles recettes de la WWE. Moi, je trouve ça peut-être un peu dommage, parce que Ziggler est quand même bien porté par le public. J'aurais bien vu finir sa carrière en face, mais c'est vrai qu'il en est un moment où il a un peu grillé toutes ses cartouches. Là, ça fait... quand Dean Ambrose a été champion du monde, il a eu sa chance. Il a eu sa chance avec AJ Styles la semaine dernière. La ceinture intercontinentale, c'est fini. Donc là, il faut qu'il ait un nouveau défi, un nouveau challenge et se mettre à péter les plombs. Ça peut être pas mal. Alors après, si c'est parti pour que Apollo Crews lui serve de serpillière, je ne sais pas si c'est le bon choix pour le pauvre rookie, mais ça peut être intéressant pour les semaines à venir.
Ouais, bah écoute, pareil, je trouve ça plutôt intéressant. Un peu, je partage un peu les doutes de Rafa, parce que je me dis qu'il y a, c'est vrai que le timing est un peu bizarre, parce que c'est vrai que Ziggler est un peu sorti de toutes les title pictures, et en même temps, il n'y a pas non plus énormément de face à SmackDown qui serait susceptible de l'affronter dans une feud vraiment sympa, parce que bon bah A priori, Apollo Crews, c'est plus un apéritif qu'autre chose. Donc du coup, on peut un peu se demander, on peut se poser des questions sur le timing de Stern, parce que en soi, c'est un peu la suite logique de son année 2016. On en avait beaucoup parlé, cette storyline un peu de descente aux enfers, de spirale infernale pour Dolph Ziggler, qui n'a fait en 2016 que de perdre, à part son match incroyable contre le Miz, il n'a fait que perdre.
Disons qu'il a gagné le seul match qu'il fallait gagner, quoi.
Oui, ça, c'est vrai que dos au mur, il a gagné le plus important. Mais bon, donc pendant tout un moment, ça nous taraudait, on se disait, bah, il va finir par péter les plombs, c'est jamais venu. Et puis là, c'est finalement un petit peu au moment où on s'y attend le moins, quand il est dans le creux de la vague en termes de hype. C'est maintenant qu'il décide de le faire. Donc voilà, moi je trouve pas ça super opportun comme timing. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un moment où ça aurait pu avoir un peu plus d'impact au niveau du public, un heel turn. Là, c'est pas passé inaperçu, mais bon, voilà, ça a eu un petit peu moins d'impact. Et puis sinon, sur le match, le match était vraiment très bon. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match. Et comme dit Raphaël, c'est vraiment un excellent baromètre de la progression de
Baron. Un excellent baromètre, tu veux dire.
Un excellent baromètre pour la progression de Corbin, parce que c'est vrai que c'était il y a un peu moins d'un an, c'était en avril-mai leur feud. Et clairement, si je vous dis de me raconter les trois matchs en pay-per-view qu'ils ont eu, je suis pas sûr qu'on s'en souvienne, hein, c'est pas mémorable. Parce qu'on se souvient, Ziggler avait gagné en pré-show à Payback. Et derrière, il avait perdu deux fois de suite à Extreme Rules et Money in the Bank, je pense. Et c'était très très moyen. Donc c'est vrai que de là, de voir un match comme ça de weekly largement supérieur, ça montre voilà, que Baron Corbin a fait. Moi, je suis. Voilà, ce segment, je trouve, m'a plutôt impressionné pour Baron Corbin plutôt que pour le heel turn de Dolph Ziggler.
Oui, c'est vrai que ce heel turn de Dolph Ziggler, on l'attendait tellement, voire le réclamait lors de la rivalité avec le Miz. Que là, elle tombe effectivement, comme tu le dis, le timing est étrange. Vous avez raison.
Comme un cheveu sur la soupe, ouais, je sais pas.
Ouais, mais bon, au moins, faut relancer des nouvelles histoires, des nouvelles rivalités. Donc, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais est-ce qu'on manque pas aussi un peu de heal en tout cas, en mid card, low card.
Moi, je dirais l'inverse.
On manque plus de face.
Je vous ai dit que j'avais pas les chiffres.
Parce que à part Cena et Ambrose, en face de bon profil, il y a finalement très peu de choses. Du côté heel, il y a le fait que Orton et Wyatt se soient associés à diminuer un petit peu quand même le réservoir.
Oui, je parle vraiment de heel mid card solo, quoi, capable de pusher.
Déjà, il y a le Miz et Corbin. Déjà, ça faisait. Enfin, oui, et puis les champions. Jay Styles, ouais. Je sais pas, je suis pas. Faut voir parce que en fait, moi, je me demande finalement derrière Apollo Crews, qu'est-ce qu'il va faire notre bon Dolph.
Ah bah tout dépend qui est prévu de qui va tirer son épingle du jeu de cette rivalité. Hein. Peut-être que c'est Apollo Crews. Hein.
Peut-être que c'est pour Apollo Crews.
On ne sait pas. Faut bien falloir qu'il se passe quelque chose pour ce monsieur. Bon, allez, on enchaîne. Alors avec la division féminine, hein, je vous ai annoncé en début de show dans le menu que la division féminine avait un peu la grippe aviaire. Malheureusement, effectivement, c'était pas très glorieux ce qui s'est passé ce soir. Donc il y a eu en trois actes. Le premier, c'est Carmella, hein, Carmella toujours qui est accompagnée dorénavant de James Ellsworth, hein, dans une espèce de voilà, les deux flirtent. On ne sait pas vraiment quelles sont les intentions de Carmella, mais toujours est-il que James Ellsworth s'est trouvé une nouvelle personne à coller, on va dire. Après Jay Styles et Dean Ambrose, il colle au basket.
C'est un petit peu plus sympa quand même.
De Carmella. Donc une petite séquence backstage où James souhaite bonne chance à Carmella, il lui prête son t-shirt, hein, celui avec son l'effigie là que visiblement ils vendent encore, où on voit la tête de James. Et ce soir donc Carmella a un match contre une semi-inconnue, une certaine Aliyah que les suiveurs d'NXT et les personnes qui ont regardé Breaking Ground connaissent un peu. C'est une pure rookie. Un match sans aucun intérêt, si ce n'est l'intervention de James Ellsworth, qui va un peu, on va dire, qui va aider Carmella à placer, donc à vaincre, hein, à gagner ce match. Voilà, 2 minutes 56, soumission, donc victoire de Carmella, emballée, c'est pesé. Je continue, hein, parce qu'il n'y avait pas. Voilà, on est d'accord. C'est bien la vidéo parce que je ne suis pas obligé d'attendre votre réponse orale. Je vois vos têtes hocher. C'est
Vas-y,
super.
vas-y.
Nikki et Natalia, hein, cette rivalité, pareil, de haute volée, continuent à partager donc leurs griefs respectifs au milieu du ring. À ce moment-là, on dirait un peu qu'elle répète une pièce de théâtre. Hein, la façon dont elle se pose et tout, c'était assez étrange. Donc voilà, tu dis que je suis rien, blablabla, mais tu es rien sans ta famille. Donc c'est-à-dire que on va dire, Nikki pour Natalia, Nikki est là grâce à John, et pour Nikki, Natalia est là grâce à Bret Hart. Bref, on voit un tweet où on voit Bret Hart et Nikki Bella et Nikki et Bret qui dit qu'il adore Nikki. Enfin, c'est assez bizarre. On sent le marketing est bien rodé. Et voilà, et ça se termine. Vraiment, je vous donne la fin.
Ouais, pas
Natalia dit
grand-chose.
à Nikki que Sina va le quitter et qu'elle mourra toute seule. Et Nikki donc met un coup de
Écoute,
poing à
on fera
Natalia
tous.
parce que c'est pas sympa de dire à quelqu'un qu'il va mourir tout seul. On enchaîne, si vous voulez bien, avec ce qui est presque le plus intéressant. J'ai bien dit
Ah
presque. Donc ce soir, oui, ce soir on avait
oui.
donc un match entre Becky Lynch et la Luchadora. La Luchadora, je sais pas si on en a déjà parlé parce que je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, mais en tout cas,
Non, non, on n'a pas dû en parler, non,
c'était
parce
donc
que
la
c'est...
semaine dernière, une
Ouais.
catcheuse masquée s'en était pris à Becky Lynch. Si je dis pas... Non, attendez, oui, c'est ça. Et après, en
C'est-à-dire
fait...
que tout a commencé il y a 2 semaines quand Becky
Ah.
Lynch était la Luchadora.
C'est ça.
C'est ça. Voilà, tu as raison. Becky Lynch était voilà, c'était Alexa Bliss, merci Rafa. Alexa Bliss avait un match contre une catcheuse masquée, et cette catcheuse masquée était en fait Becky Lynch. Puis, la semaine d'après, donc la semaine dernière que nous
Il y a
n'avons
eu le
pas
title shot.
review, il y a eu le title shot, et une personne masquée également comme la Luchadora est intervenue en faveur d'Alexa Bliss, et donc avait provoqué la défaite de Becky Lynch. Là,
C'est
on a
ça.
cette fois-ci enfin le match tant attendu entre Becky Lynch et la Luchadora, même si on ne sait jamais vraiment qui est en
Vengeance.
dessous de ce masque. Alors, le match, pareil, hein, n'a pas beaucoup d'intérêt. La personne, je ne sais pas qui est la catcheuse sous ce
Moi non
masque,
plus, je ne
mais
sais
elle se
pas.
démerdait vraiment pas bien du tout. J'espère
Terrible.
vraiment que c'est une rookie de chez rookie. Toujours est-il qu'à un moment donné, la Luchadora passe sous le ring et ressort de l'autre côté. Et là, la Luchadora place le Twisted Bliss, hein, cette prise d'Alexa Bliss où elle saute, elle tournicote dans tous les sens avant de ratterrir. C'est une espèce de moonsault là où elle atterrit sur Becky Lynch. Donc là, on dit, oh my god, c'est Alexa Bliss. Mais Becky Lynch, donc la place dans son disarmer et victoire de Becky Lynch. Et là, donc, bah, le poteau rose est démasqué. Effectivement, sous le masque de la Luchadora. C'est Becky Lynch, mais il y a une deuxième Luchadora qui arrive, qui est en fait la première Luchadora. Et là, on me dit non, mais en fait, si, c'est bien ça, Raphaël, qui s'est
Ah
passé.
si si c'est ça.
Ah non, c'est pas Becky Lynch, c'est Alexa Bliss.
Oui, c'est Alexa Bliss. J'ai dit Becky Lynch. Ah oui, d'accord.
Ah, moi j'avais pas
Les
relevé non
auditeurs
plus.
auront compris. C'est effectivement Alexa Bliss et une deuxième Luchadora intervient. Et là, on ne sait pas qui c'est. En fait, donc elles étaient deux. Et donc Alexa Bliss et la deuxième Luchadora repartent sans qu'on ne sache qui est sous le masque de la deuxième Luchadora,
Voilà, de la mystérieuse.
de la mystérieuse Luchadora, parce qu'entre-temps, elles ont passé à tabac, évidemment, Becky Lynch, parce que à deux, c'est plus facile, à deux contre un. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi, parce que c'est vrai qu'en 3 épisodes, voilà, comment dire, les storylines à base de catcheurs masqués, parfois, ça tourne vite au grotesque, et faut réussir à suivre. Donc, je ne sais pas, toi, Rafa, ce que tu penses de tout ça. Est-ce qu'on va vers le grotesque ou pas? Et surtout, est-ce que tu as une petite idée, de la personne qui est sous ce masque?
Alors, je vais reprendre tes 3 points rapidement, les 3 actes. Premier acte, bon, James Ellsworth, Carmella, on s'en fout un peu. J'espère juste qu'ils vont pas essayer de nous faire croire que les deux sont en couple, alors qu'on est quand même à l'époque de la Reality Era et tout le monde sait que Carmella est avec Big Cass, à moins que Big Cass vienne casser la gueule à James Ellsworth. Je ne saurais pas. Voilà.
C'est jamais.
Ouais, deuxième acte, bon, Nikki, Natalia, ouais, tu l'as dit, c'est nul à chier. Natalia, j'ai l'impression qu'elle fait ce qui se fait de temps en temps assez souvent chez les filles, c'est cette espèce de heel turn forcé hyper violent, comme avait
Ouais,
fait
c'est ça.
Charlotte, à base de
Ouais.
tu vas mourir, ton mari va te quitter quand tu vas devenir ridée. Même les enfin, qui s'en fout de ce que Bret Hart envoie par tweet? Qui pense que Bret Hart tweet lui-même ses tweets? C'est nul. Donc tu as raison, au final, pour c'est quand même le segment avec Becky Lynch et la Lucha Dora qui était le plus intéressant des trois passages. Moi, je n'ai aucune idée de qui est cette jeune femme. Effectivement, sur les cordes, entre les cordes, elle a l'air pas terrible. Donc ma petite théorie, mais je ne sais pas si elle est déjà de retour de son accouchement, ça serait Rosa Mendes.
Ah, c'est vrai qu'elle est toujours. Je suis allé là sur la page du roster de la WWE. Elle a toujours sa
Ah, elle est
fiche. Hein.
toujours, elle a toujours sa fiche.
Moi, il me semblait
Parce
qu'elle avait
que.
été virée, mais.
Non, non, elle avait été en cloque et elle a accouché.
C'est
Mais
mal vu de virer les femmes enceintes.
voilà, moi je suis comme Giscal, j'ai vu ce qu'il a mis sur le forum, je ne veux pas aller voir sur les spoils pour savoir qui c'est, mais
Ah, moi non plus.
effectivement, elle a l'air de ne pas avoir le gabarit ni de Tamina, ni de Mickie James.
Ouais,
Bon.
non, je vois pas trop non plus. Ouais.
Mais elle avait vraiment du mal à se positionner. Enfin, à un moment, elle recule tous les deux pour rentrer au vestiaire. Enfin, elle regardait derrière, elle avait vraiment pas ses marques. Donc, c'est pour ça ma théorie de la rookie se base là-dessus. Mais en même temps, Rosa Mendes est une sorte d'éternelle rookie. Donc, c'est pas
C'est
très
sûr. Ce qui est
emballant.
sûr, c'est que on aura la réponse un jour, quoi. Je pense que
Oui.
ça se voit d'ailleurs. Ils vont pas nous. Cette Luchadora, c'est pas Sin Cara ou c'est pas quelqu'un donc qui a sa gimmick de Luchador masqué, quoi. Dans 2 semaines, on saura qui c'est. Mais alors, est-ce que ça sera vraiment intéressant?
C'est ça. Mais ouais, dans les deux cas, il faut pas que ça dure trop longtemps, je pense. Que ce soit dans un but purement anecdotique, c'est une rookie jobbeuse et elle va se faire expédier. Bon bah voilà, elle sera démasquée, elle sera battue et on reprendra les affaires sérieuses. Et si c'est une quelque chose qu'ils veulent lancer vraiment sérieusement, pareil, je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce que l'intrigue est pas non plus, enfin elle est pas non plus ultra profonde et intense. Donc pour pas que ça tourne, comme tu dis, IRM, au grotesque, cette affaire de masque, je pense que bah voilà, peut-être 1 ou 2 semaines encore, elle fait chier Becky Lynch, et puis elle finit par se faire démasquer, et puis on avance, quoi. Mais là, en l'état, moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des trucs un peu en mode des catcheurs masqués qui sont plusieurs et qui font des sortes de twin magic là pendant les matchs, qui s'échangent leur position et tout. Je trouvais ça plutôt pas trop mal. Ce qui était rigolo, c'est que quand Becky Lynch sort du ring, je trouve que Becky Lynch Alexa Bliss sort de dessous le ring, on reconnaît tout de suite que c'est elle.
Ah bah oui, on oui.
Et c'est très drôle parce que tout de suite elle est beaucoup plus petite et on voit des petites mèches blondes derrière et tout. Et donc c'est assez drôle parce que enfin tu vois tout de suite le gabarit de la toute petite Bliss qui est reconnaissable. Et puis bon voilà, sinon sur le match je vous avais dit c'était très très mauvais jusqu'à ce que Alexa Bliss arrive. Petit commentaire, j'aime bien quand les heels, Charlotte le faisait beaucoup sur le bank statement en weekly contre Sacha. J'aime bien quand les heels tapent instantanément sur les prises de soumission comme ça, parce qu'elles ont aucun intérêt en fait à résister, contrairement au face. Et donc du coup je trouve que c'est très malin en effet. Dès qu'elle est prise et qu'elle sent que c'est baisé, elle tape et elle se casse, quoi. Donc je trouve que ce sont des petites touches qui font que c'est bien pour son personnage.
Ouais.
Et
Bah,
puis
ça me
hop.
fait penser d'ailleurs, justement, c'est intéressant ce que tu dis. On va pas en faire un débat d'une heure, mais effectivement, souvent, non, mais on entend souvent les, enfin, on se plaint souvent quand les heels, voilà, tapent, enfin, dans ce genre de rencontre. Mais je me
C'est pas un
souviendrai
problème.
toujours de ce Kevin Owens qui avait tapé sur son troisième combat, je crois, face à John Cena, il me semble.
Ouais.
Et il l'avait expliqué dans une
Il l'avait
séquence
expliqué.
vestiaire qu'il disait bah moi j'ai une carrière à gérer, je vais pas attendre qu'il me casse le bras, c'est
C'est
pas
ça.
grave,
Ouais.
tout en restant avec son caractère de heel. Et je trouvais ça intéressant, faut avoir ça en tête effectivement, ou même quand t'es, enfin c'est de la stratégie comme tu dis effectivement.
Ouais.
Là il y avait
Aucun
rien, il y
intérêt.
avait aucun enjeu en particulier, donc voilà, donc fin de la parenthèse.
Ouais, c'est ça.
Quelque chose à rajouter, on peut passer à la scène tag team.
Juste un tout petit truc léger, mais rapide.
Légère, un léger.
Je reviens pas sur les deux autres histoires parce que Raphaël a dit que c'était nul, enfin c'est pas bon. Mais néanmoins, malgré le fait que ce soit pas bon, bon ça c'est mon côté vert toujours à moitié plein, je trouve ça très sympa de voir qu'ils prennent le temps d'écrire des choses pour finalement trois storylines dans la division féminine. C'est du jamais vu d'histoire de mémoire récente. Que dans une mid-card féminine qui plus est, il y a trois histoires en parallèle. Donc c'est très inégal, très très inégal. Mais voilà, je trouve
la
que
volonté est là.
La volonté est là, toujours ce souci permanent d'utiliser tout le monde. C'est vraiment cool. Quoi.
Ah bah ça c'est une des qualités de SmackDown, hein, on le répétera jamais assez. C'est la bonne gestion du roster, voilà. Mais effectivement, comme tu dis, bon bah ça peut pas être très volé très haut forcément à chaque fois, mais au moins ils ont tous un peu de temps d'antenne. Il y a beaucoup de rookies dans le lot et on les voit progresser petit à petit. En parlant de rookies, la semaine dernière, il y avait un combat très important puisque la ceinture des tag team était en jeu entre la Wyatt Family et American Alpha et les American Alpha ont gagné. Donc on commence l'année donc 2017. Quoi, Giscal ? Ils n'ont pas gagné ? Je te vois dire non.
Si, mais c'était pas un 2 contre 2. Enfin, c'était il y avait 4 équipes. Mais
c'était un
corner à élimination.
Le fameux fork, tu as raison, le fameux fork corner. Ouais. Au final, il y avait aucune spécificité à cette stipulation.
Non, c'est un match à élimination, une sorte de fatal four way par équipe où il y a juste deux catcheurs en même temps dans le ring et à élimination.
Voilà. Tu as raison. Effectivement, donc ce sont les American Alpha qui ont tiré leur épingle du jeu et donc nouveau champion. Donc là, on avait un match entre l'American Alpha ce soir versus Breezango. Un match qui aura duré 30 secondes. Victoire des American Alpha, c'est expéditif. Bray Wyatt apparaît à l'écran. Il conseille aux American Alpha de profiter de ce moment. Car tôt ou tard, ils viendront les chercher. Les American Alpha ont volé la lumière de la famille, le spotlight, mais en fait, ça les a rendus plus forts. Et la semaine prochaine, ils vont reprendre ce qui leur appartient.
Ce qui est le rematch.
Run. Et ce run, c'est très marrant, parce qu'à ce moment-là, Luke Harper s'approche de l'écran pour placer son fameux run qui vient conclure souvent les élucubrations de Bray Wyatt. Et là, en fait, on a Randy Orton qui se met devant la caméra et qui donc vole la catchphrase à Luke Harper et Luke Harper qui lui fait les gros yeux. C'est assez formidable. Du grand acting. Qu'est-ce que vous en pensez, Giscal?
J'ai bien aimé. Alors, j'ai un grief, c'est le choix de l'adversaire. J'aurais préféré que ce soit une autre équipe.
Ah oui, pourquoi ?
Parce que Breezango, je les aime bien. Donc, j'aurais. Bon, de toute façon, je trouve que ça aurait été plus cool de mettre les Vaudevillains ou The Ascension que Breezango.
Les Vaudevillains, c'est bon, ils ont assez morflé en 2016.
Oui, ils ont fait. Non, mais en fait, c'est parce que j'aime bien Breezango et je trouve qu'ils avaient eu un excellent match l'année dernière contre les American Alpha. Je trouve que c'est une équipe un peu sous-estimée et je les aimais bien et j'aurais bien aimé voir un beau match entre ces deux équipes-là. Bon là, ils ont servi de sacrifice. Par contre, sur le principe même, c'est exactement ce qu'il fallait. American Alpha, ils arrivent, ils défoncent tout, grande amplitude, la foule est contente, c'est cool, ça leur donne un max de momentum pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est nickel. Et puis après sur le rematch pour la semaine prochaine, ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir si le règne va durer ou s'ils vont s'échanger la ceinture et tout. En tout cas, moi, je continue de beaucoup aimer cette petite rivalité très subtile et toujours très discrète entre Luke Harper et Randy Orton. Je trouve c'est très drôle. Et puis le petit run de Randy Orton dont t'as parlé. Je l'ai trouvé marrant. Si vous n'avez pas vu le show, faut le regarder. Mais j'ai eu l'impression qu'il faisait presque exprès de mal le dire. Enfin, c'était d'habitude Bray Wyatt et Luke Harper, ils forcent la voix, ils sont run comme ça, genre avec une voix très caverneuse. Et là, t'as Randy Orton, il passe presque nonchalant, il fait run.
Juste pour voler le spot, quoi.
Ouais, parce que je suis sûr qu'il faisait exprès en plus de mal le faire comme ça, donc je trouvais ça vraiment marrant. Donc voilà, écoute, ça continue d'être divertissant, ça a pris juste ce qu'il fallait comme temps d'antenne, puisque de toute façon, les choses sérieuses sera la semaine prochaine, donc c'était très bien.
Alors, les dissensions entre les deux semblent un peu, enfin, pas s'estomper, mais entre Luke Harper et Randy Orton, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'effectivement, la semaine dernière, il y a eu des dissensions entre les deux, parce que ce sont eux, tous les deux qui ont participé au match, et une mésentente entre les deux
C'est ça.
a résulté en la défaite, hein. Du
C'est
coup,
tribord.
toi, Rafa, qu'est-ce que t'en penses justement de la Wyatt Family et puis American Alpha, champion?
Bah là, il va y avoir dissension entre nous jusqu'à.
Ah,
Je sais pas
oula, ça
écoute.
comme.
Non, c'est pas
Run.
violent.
Run.
J'ai un drôle de goût parce que je trouve que les Alpha, c'est peut-être l'équipe la plus qu'on attendait le plus comme champion en fait dès le premier tournoi. Hein. On s'attendait à ce que ce soit eux s'il n'y avait pas eu la popularité des Slater.
Ah, c'est ça,
Et
ouais.
ils me font penser un peu aux Usos il y a 3-4 ans, c'est-à-dire l'équipe la plus soudée, spectaculaire, plaisante, populaire. Et les Usos, ils avaient fait durer un petit peu avant de les faire prendre la ceinture, et ça avait été une vraie explosion de joie quand ils l'avaient eu. C'était à Chicago, je me souviens, parce que c'était pour calmer un peu l'histoire de Punk. Et là, je trouve que ça a été hyper précipité, en fait, et ils sont devenus champions sans qu'on ait trop le temps que la sauce monte. Ce
Ouais.
Four Corner, voilà, Four Corner, c'était un peu le bordel. Donc là, ils sont champions. Bon, bah, c'est cool pour eux, mais
Moi, je vois
du
ce que tu veux
coup,
dire.
à la limite, est-ce qu'il
ouais.
n'aurait pas mieux fallu leur donner à East Slater et Rhino,
Ah, de le
finalement?
rendre. Ah oui.
Puisque l'intérêt, tout ça, c'est pour la storyline de la Wyatt Family, on est d'accord.
Oui, on continue. Enfin, le focus est quand même plus là-dessus.
Enfin, en
Ouais,
tout cas, pour
bah.
l'instant.
C'est ça qui est un peu dérangeant. Moi, les Wyatt et Orton, je les aime. Ça fonctionne pas mal ensemble. Et bon, il y a des petites tensions et on sent que. Enfin, je pense qu'ils vont faire que ça va s'accélérer dans les semaines à venir pour un momentum, pour une scission sûrement à WrestleMania, ce qui est peut-être un peu rapide. Je ne sais pas trop. En même temps, Orton, il reste très 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 populaire. Hein. Tout le monde, la foule veut le voir, chanter RKO et tout. Donc ça rend presque les Wyatt face, ce qui n'est pas le but recherché. Donc c'est peut-être pour ça que ça qui précipite un peu la scission parce qu'il voudrait une équipe Wyatt Hill. Enfin, je ne sais pas. Tout ça va. Je trouve que ça va un peu trop vite entre les ceintures qui se gagnent, puis qui se perdent, puis qui se regagnent, les scissions.
Alors effectivement,
Voilà.
t'as raison. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que là, ils ont pas regardé le calendrier par rapport notamment à WrestleMania. Ils se sont dit, merde, il reste plus que 3 mois. Notre affiche, c'est on veut du Wyatt versus Randy Orton. Et on a plus que 3 mois, il faut vite les séparer. Donc c'est vrai que ça arrivait un peu vite, tout est arrivé vite, t'as raison. On a voulu, j'imagine, faire un peu un moment un peu choc pour le dernier épisode de l'année. Et je suis d'accord avec toi, American Alpha. Il y a vraiment un petit souci de timing là, en fait, sur cette fin d'année, début d'année, entre Dolph Ziggler peut-être qui fait son heel turn un peu trop, presque trop tard, et là American Alpha qui est presque peut-être champion un peu trop tôt.
C'est possible, ouais,
Donc
c'est vrai.
voilà, on est quand même content. Enfin, la qualité est là.
Et il reste très populaire et ouais, les American Alpha, donc c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est vrai que je
Mais en
ouais.
plus, nous, American Alpha, enfin, ils sont célèbres aussi grâce à NXT. Et les gens qui n'ont pas suivi NXT, je sais pas trop comment ils vont. Ils sont spectaculaires, comme tu le dis, comme les Usos. Donc la mayonnaise va prendre avec le public de toute façon. Tant qu'on les laissera s'exprimer sur le ring, ils font un super travail de duo avec des sauvetages toujours de dingue, et ils ont des moves vraiment à deux qui fonctionnent. Ça, on sent vraiment l'écurie NXT derrière. On a vraiment des équipes qui fonctionnent, qui ont des prises ensemble, et ça marche bien. Mais en dehors de ça, en dehors du ring, il va falloir quand même construire quelque chose pour les deux, pour que les gens s'attachent.
Leur performance de la semaine dernière était quand même exceptionnelle au American Alpha
Bien sûr.
quand ils ont pris le titre. En fait, ils ont fait une superbe performance de prise de titre. C'était un super match pour les couronner. Mais après, je suis d'accord que peut-être que ce match arrivait trop tôt. C'est dommage. Mais par contre, la semaine dernière, bon, on n'a pas pu en parler, mais ils ont fait un match avec des Germans où là, Chad Gable, il sort des souplesses. Sur Rhino, sur Luke Harper,
Là
genre c'est
là, ouais. Sur
impressionnant,
Rhino, ouais, c'était
impressionnant.
impressionnant. Ouais.
Mais voilà, moi je me dis qu'ils ont un moveset tellement spectaculaire, une telle énergie et tout, que je me fais pas trop de soucis sur la connexion avec le public quand même.
Oui.
Mais en fait, voilà, on la joue plutôt, on va leur donner les ceintures et maintenant, bon bah voilà, ils ont intérêt à bien fonctionner
Ouais,
plutôt
c'est
que de
ça.
vraiment faire monter et ensuite de les faire prendre la ceinture. Donc c'est, ils ont un peu joué le truc à l'envers.
On va voir hein, si ça fonctionne. C'est un peu l'inverse par rapport à Slater et Rhino. Donc on va
C'est
voir
ça.
si ça fonctionne. On l'espère pour American Alpha, pour Gable et
Oui.
Jordan. On va enchaîner si vous voulez bien. Là, il nous reste deux gros morceaux. Le premier
Ah
gros
oui.
morceau, c'est une signature de contrat. Une signature de contrat entre donc AJ Styles, hein, notre champion, et Mr. John Cena, qui, base,
Recognize.
voilà, recognize, hein, c'est sa nouvelle catchphrase, je ne sais pas s'il l'utilisait avant, en tout cas, il l'utilise maintenant. John Cena, donc, qui était venu la semaine dernière, provoquer AJ Styles et s'insérer, bah, dans la title picture, en résumé, juste parce que c'est John Cena, et puis c'est tout. Donc là, on a une signature de contrat avec donc Daniel Bryan qui fera office de notaire assermenté. Donc AJ Styles interpelle Daniel Bryan. Il lui dit, ouais, toi et moi, on est pareil, on a écumé les petites salles, les rings crado, voilà, ils ont ce background de scène indépendante. Donc AJ Styles cherche la connexion comme ça avec Daniel Bryan. Mais lui, là, le type là, avec la casquette et le t-shirt, alors je sais pas si c'est pas violet en ce moment, mais voilà.
Il est noir en ce
Ah mince, ça nous...
moment.
lui là avec son t-shirt noir. Bon mince. Mais lui là, toi, il est pas pareil que nous. Il vient là, il réclame son title shot et puis en plus il l'obtient. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc Daniel Bryan se démonte pas. Il dit bah écoutez, effectivement, SmackDown a battu la semaine dernière et ça c'est aussi bien pour nous au supplément. SmackDown a battu Raw en termes de ratings pour la première fois. Alors il me semblait que j'avais déjà été le cas par le passé, mais visiblement non. En tout cas, c'est officiel. Pour la première fois, ils les ont battus. Grâce à vous deux, hein, Daniel Bryan, voilà, il fait les éloges des deux individus. Grâce à toi, AJ Styles, pour ta super performance lors du main event, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et grâce à toi, John Cena, grâce à ton simple retour, ta simple présence, a permis. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est très drôle parce que AJ Styles est debout et qu'il converse avec Daniel Bryan. Et John Cena est assis peinard, en mode, ouais, ma présence suffit à elle-même.
C'est ça,
C'était
pas
une
besoin d'en
attitude.
faire
Pas
plus.
besoin d'en faire plus. Voilà, il faut garder le momentum, explique Daniel Bryan. Alors, j'ai bien aimé hein, cette petite tentative. Enfin, c'est même une. C'est pas une petite tentative, je trouvais une tentative assez maligne où c'est pas les storylines qui dirigent tout. Des
Non,
fois,
c'est vrai.
c'est le côté business. Alors, best for business pour Daniel Bryan, ça doit rappeler des choses. Hein. Mais bon, voilà, maintenant on est de l'autre côté. Maintenant, on a la cravate. Mais voilà, il faut garder le momentum et offrir la plus grosse affiche au public. Ça reste pour le public avant tout, évidemment. Tu te souviens, quand je suis arrivé, donc là c'est AJ Styles hein, qui s'adresse à John Cena. Quand je suis arrivé, tu m'as pris de haut en me disant qu'il fallait que je gagne pour prouver que je méritais d'être à la WWE. Mais aujourd'hui, on est en 2017, donc c'est moi qui te le dis, John. Si tu ne gagnes pas ce match, donc visiblement hein, le match est acté hein, de toute façon.
Ah oui.
Oh bah oui, tu ne mérites pas d'être ici. Et là, donc là, on enchaîne un peu les méchancetés. Donc il dit, John, toi, tu as dit la vérité, parce qu'on parle de mensonge, de vérité, qui dit vrai, au sujet du Rock. Parce que là, il sous-entend pas mal que voilà, John Cena, c'est un part-timer qui devient un peu comme le Rock, hein. Et cette vérité, c'est la même pour toi aujourd'hui. Donc, grosso modo, hein, ce que tu reproches au Rock, eh ben, moi, je te le reproche aujourd'hui. Donc, les rôles s'inversent, on va dire, hein, se déplacent. Tu as été génial pour la WWE, pardon. Donc, has been. Il faut bien insister sur le has been, donc là une petite pique évidemment. Tu ne seras jamais aussi bon que le Rock à Hollywood et tu ne seras jamais aussi bon que AJ Styles à la WWE. Il n'y a que deux W, faut t'en vouloir en mettre cinq. John Cena avait l'air un peu fatigué, hein. Je trouvais un peu fatigué John Cena. Il avait les cernes, tu vois, les petites cernes du mec qui catch plus beaucoup.
Eh, doucement, doucement.
Il déclare qu'AJ Styles a fait la plus grosse erreur. Il a énervé John Cena. Voilà, on sait maintenant quelle est la plus grosse erreur à ne pas faire dans sa vie. Tu as raison, j'ai besoin de gagner pour prouver que je suis toujours dans le coup ici. Et tu sais pourquoi tout le monde veut voir ce match? Parce que les gens pensent, si j'ai bien traduit, les gens pensent que tu es celui qui va me remplacer. Mais tous les autres, d'autres avant toi ont dit la même chose et je leur fais ravaler leurs mots. Toi, tu vas où on te dit d'aller. Moi, je vais tellement loin qu'on me dit d'arrêter, hein, de stopper. Toi, tu viens parce que tu dois venir, moi je viens parce que j'en ai envie. Ok, je vais à Hollywood, mais je reste ici. Tout ça, c'était pour illustrer donc la passion qu'a John Cena pour le catch, cette passion qui fait qu'il reste quoi qu'il fasse à côté. Lui, il s'en va pas, ou il s'en va pas longtemps, il revient. Donc voilà, entre les deux, ça commence à chauffer. Entre temps, Daniel Bryan est parti, s'est éclipsé pour la signature
oui,
de contrat.
Il a senti que ça chauffait.
C'est assez étrange, hein, parce qu'en général, la personne qui est là pour la signature de contrat reste au moins jusqu'à ce qu'il se tape sur la tronche. D'ailleurs, je ne sais même pas si les deux ont vraiment signé. Les deux ont signé ?
Si, ils ont signé, et puis ils se sont bien regardés dans les yeux en signant.
Merci. Et là, à ce moment-là, quelque chose d'étrange se passe. La musique du Baron retentit. Donc on a une intervention de Baron Corbin qui nous dévoile, il annonce, il prophétise hein, sa victoire au Royal Rumble et ses ambitions du coup hein, de devenir champion à WrestleMania. Donc le Baron Corbin, hein, fort de sa victoire face à Dolph Ziggler, bah, il sent pousser des ailes et il vient chercher les gros poissons. Il s'incruste dans le main event, donc ça chauffe entre lui et John Cena. AJ Styles en profite pour assommer le Marine d'une reprise de volée dans la tronche. Le Marine est au sol. AJ Styles puis Baron Corbin rejoindront les vestiaires. Et c'est ainsi que se termine cette incroyable signature de contrat entre AJ Styles et John Cena avec la participation du Baron. Jusqu'à, je te sens, là, je te vois très moussé, c'est incroyable cette vidéo, c'est super. Alors, bah écoute, je vais te donner la parole parce que tu as l'air chaud comme la braise.
Bon, je suis chaud parce que j'ai trouvé ça génial. Enfin, moi, je trouvais que ce segment était ouf. Tout le monde se doute que j'ai trouvé la partition de John Cena incroyable, mais il faut quand même donner un petit coup de chapeau à AJ Styles qui a été excellent au micro. Et qui est quand même de plus en plus, ça va, il est super à l'aise au micro, donc je vais pas faire genre, il progresse, mais enfin c'est,
il progresse.
Il tient vraiment super bien son personnage de connard. Je trouve que beaucoup plus qu'avant, quand il était au début de ses promo heel, ses insultes, elles claquent, elles sonnent juste, ses punchlines, elles sont bien, elles font bien réagir le public. Donc il en avait des super hein, quand tu t'as dit, hein, Cena. You have been great, donc t'as été super, mais justement faut bien insister sur tu as été, donc c'est fini, c'est genre maintenant John Cena c'est du passé. Et puis alors le moment où il dit que tu seras jamais aussi bon que le Rock à Hollywood et malheureusement tu seras jamais aussi bon que moi en catch, c'est génial, enfin c'est génial, moi je suis pas d'accord hein, mais c'est vachement bien parce que en fait toute cette promo elle et c'est souvent comme ça que ça fonctionne bien quand il y a John Cena dans une rivalité, c'est quand les promos que ce soit du heel ou de John Cena en appelle vraiment à toute la haine qu'il peut y avoir autour du personnage de Cena. Et d'ailleurs, même John n'est jamais aussi fort que quand il embrasse complètement ce côté écoutez, je sais qu'il y en a plein qui m'aiment pas, mais j'en ai rien à foutre, parce que il sait que ça va agacer, il sait que ça va susciter des réactions et enflammer les foules. Et tu vois, quand il dit ce passage est juste fantastique, quand il dit que tu vois ce match il faut qu'il ait lieu parce que tu t'as dit voilà, AJ Styles, il y en a beaucoup qui pensent que tu es celui qui va me remplacer, sauf que moi, je sais plus comment il le dit, mais il dit moi j'ai fait une carrière dans le fait de faire fermer leur gueule à tous ceux qui voulaient me remplacer. Et c'est juste trop bien parce que là tu sens que il doit y en avoir plein dans le public et derrière leurs écrans qui sont en train de fulminer les poings serrés, genre mais putain il nous fait chier Cena machin.
Je suis sûr il lit notre forum.
Ouais, donc du coup c'est bien, ça sonne bien, il y avait vachement de répondants entre les deux et puis bah voilà, j'ai trouvé ça excellent. La petite pique aussi à Brian qui accepte le match parce que c'est le beau-frère de John Cena.
Oui, effectivement, j'en ai pas parlé effectivement.
Tout le monde en a pris pour son grade. C'est des super petites promos de trash talk là. C'est des très très bons boulots.
Rafa.
Mm-hmm. Ben on voit la passion d'un homme pour un autre homme en tout cas. C'est beau.
Non, c'est d'un homme pour une idole.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé AJ Styles, effectivement. J'ai trouvé très très juste et très très bon. Et effectivement, tous ces rappels sur le côté part-timer de John Cena, sur tout ce qu'on peut lui reprocher, quand ça sonne vrai, c'est très très bien. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi Brian s'est barré si vite, effectivement. Et
Incompréhensible.
moi, j'ai trouvé dommage quand même que John Cena replonge un peu dans ses anciens travers et qu'il se mette à traiter AJ Styles de petite bitch, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
Si, si, ouais,
Ah,
c'est au
bah
début,
si,
il a
si, si.
commencé un peu comme ça, effectivement.
Ouais, ça m'a un peu. J'aurais préféré qu'il reste vraiment sur cette tonalité, tu vois, sur sa passion. Et puis sur le côté part-timer, de rappeler vraiment que bah il a quand même passé 15 ans à faire ce que fait AJ Styles aujourd'hui, être là tous les jours. Non, mais c'était vraiment une bonne promo, une signature intense, et ça augure d'un gros match. Ce que j'ai noté, c'est que personne ne reconnaît la musique de Baron Corbin hein, quand il arrive, que ce soit moi et le public. Je crois que
Ouais,
tout le
c'est
monde
vrai
se
que c'est.
demande.
Moi,
Ouais,
je
deux,
l'ai
trois
reconnu tout
scènes.
de suite.
C'est qui?
Ouais,
Ouais.
t'as IRM et le Baron, c'est quelque chose. Hein.
Et puis bah, son intervention est intéressante pour la suite. On sent qu'il lui construit un personnage comme il avait à NXT, de très très orgueilleux et de très très ambitieux, mais sur lequel les actes commencent à coller un peu avec les
Oui.
promesses. On va voir ce qu'ils font de ce triangle avec lui. Déjà qu'il était il s'est inséré dans la rivalité avec Ziggler, donc bon, lui il sera au Rumble. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr qu'il soit le gagnant du Rumble et qu'il soit à
Je pense
WrestleMania pour une
pas.
plateforme, je pense pas. Mais c'est intéressant qu'ils viennent chercher des noises. Ce sera sûrement un match pour John Cena dans le pay-per-view de février, j'imagine,
Ouais,
backstage.
j'imagine aussi à Fastlane.
Et ben en
Ouais.
fait, je crois que le match a été annoncé pour la semaine prochaine.
Ah oui, c'est
Oui,
vrai. Oui.
mais je pense qu'il y aura en effet une rivalité qui va en découler après, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'en effet, ils ont annoncé Corbin contre Cena pour la semaine prochaine.
C'est vrai.
Ouais.
Du lourd, donc un super programme pour le Baron, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. messieurs, on va enchaîner avec le main event de ce soir. Un match pour le titre intercontinental donc, qui oppose Dean Ambrose et Omiz. Alors, je vais essayer de vous faire le petit résumé de ce match qui avait donc beaucoup d'enjeux, puisque la ceinture intercontinentale a retrouvé tout son prestige et a les faveurs du et fait donc pardon, le main event. Donc, Dean Ambrose donc, attaque hein, directement, il passe à tabac le Miz. Le Miz fuit évidemment. Voilà, il joue cette partition pas de pleutre, mais bon, presque. Dean Ambrose continue de l'attaquer dans le coin. Rapidement, il essaie de placer son Dirty Deeds, mais ça ne passe pas. Donc, on a toujours une course-poursuite entre Dean Ambrose et le Miz. Alors, bon, Dean Ambrose finit par mettre la main enfin sur le Miz et à le passer à tabac. Il le balance dans les barricades. Donc là, on a l'extérieur du ring à ce moment-là. À ce moment-là, donc, il place après le Miz sur la table des annonceurs. En tout cas, il s'en approche, je ne sais plus. Intervention de Maryse, évidemment, pour distraire le Lunatic Fringe, qui permet donc au Miz de reprendre le dessus sur la bataille, sur le combat. Il balance Dean Ambrose sur les marches de l'escalier. Petite coupure pub. Ambrose donc balance Miz au sol. Il place son elbow drop sur le Miz. On se retrouve sur le ring. Et oui, une belle descente du coude. Bravo Giscal. Si vous avez la vidéo, vous avez dû avoir les yeux qui saignent. Donc Ambrose balance plusieurs clotheslines. Hein, on est vraiment dans, voilà, comment dire, le moveset de Dean Ambrose, le lazy moveset de Dean Ambrose. Mise le balance dans le coin. Et donc commence à donner des coups de genou, attaquer pardon le genou de Dean Ambrose. Dean Ambrose parvient à éviter le figure four, ça c'est très drôle hein, parce que c'est une prise qui appartient aux deux dorénavant. Il contre la tentative de Skull Crush Finally. ensuite Dean Ambrose reprend le dessus. Il place son headbutt pour envoyer le Miz. Alors, en dehors du ring, enfin, ils sont en dehors du ring à ce moment-là, évidemment. Ambrose, à ce moment-là, est gêné par Maryse qui tente de le distraire. Hein. Et là, le Miz place son Skull Crushing Finale. 1, 2, simplement 2. Et oui, on parle de finishers qui ne vont pas jusqu'au bout. En voici un, ça fait mal. Le Miz, ensuite, comme vous le savez, il a volé le moveset de Daniel Bryan. Donc il place ses célèbres kicks de Daniel Bryan. Ça dure, hein, 1, 2, 3, une bonne dizaine de kicks. Dean Ambrose donc évite le final, hein, parce que voilà, il y a
comme
le...
souvent.
Voilà, ouais. Comme souvent. faut, c'est que ça reste le méchant, mais hein, il peut pas tout ouais. dérouler non plus. Grosse clothesline de Dean Ambrose sur le Miz. Il place ensuite son saucisson dive. Saucisson dive. Et à ce moment-là, Maryse enfin arrive à vraiment intervenir dans le match puisqu'elle met une claque à Dean Ambrose. Je vous ai parlé du festival des claques.
C'est la reine des claques.
C'est la reine des claques. Et à ce moment-là, alors là, c'est à ce moment-là où l'aspect litigieux du final de ce combat se produit. Alors. À ce moment-là, donc l'arbitre en fait a vu ce qui s'est passé, hein, la baffe de Maryse, et donc normalement dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une intervention. On sonne la disqualification de celui qui a profité de cette intervention. Sauf que là, Dean Ambrose, il va voir l'arbitre, il l'implore de ne pas signaler la disqualification, mais plutôt de se débarrasser, donc de virer Maryse de l'enceinte du ring. Voilà, exactement. On a droit à cette séquence où effectivement l'arbitre fait son... Enfin, il mouline. Et avant
à chaque fois.
C'est très drôle, les mecs ils moulinent et hop, c'est la pêche à la ligne.
Et Ambrose le fait avec l'arbitre, c'est assez drôle.
Voilà, donc ils sont de connivence aux yeux de tous. C'est horrible hein, de voir à quel point un arbitre peut se faire soudoyer en public. Donc le Miz, à ce moment-là, se faufile, il a récupéré le titre, hein, le Miz, il se faufile et la ceinture. Il met un coup dans la tronche à Dean Ambrose. Là, on se dit, bah, ça passe. Souvent, un coup de ceinture, c'est comme
c'est
un
fatal,
finisher, hein, c'est fatal. Mais non, si Dean Ambrose, il se relève. Puis, en profite pour placer enfin son fameux Dirty Deeds. Et là, par contre, le Dirty Deeds, on s'en réchappe pas. Une fois qu'on l'a reçu, c'est fini. 1, 2, 3, Dean Ambrose. Nouveau champion intercontinental. Ambrose, donc, qui a fait jouer ses relations privilégiées avec René Young, qui est donc travaille avec Daniel Bryan, qui est en relation directe avec Daniel Bryan, et donc avec tout le staff technique. voilà, c'est horrible ce qui s'est passé. Raphaël, à mort l'arbitre.
Ah oui, tu prends position.
Pour citer un film célèbre.
Drôlement position.
Non, évidemment, je ne souhaite pas de mal à cet arbitre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut laisser passer ça ?
Alors, quelles sont les règles du catch ? Moi, ça m'a fait penser...
Revenons au basique.
revenons au livre de règles.
Voilà, moi qui suis... moi qui connais un peu les règles du football, qui n'a rien à voir, mais il y a la règle de laisser jouer l'avantage. Donc là, on peut envisager qu'on laisse jouer l'avantage puisque Dean Ambrose estime qu'il mérite. Effectivement, j'ai vu Talking Smack et c'est précisément sur ça qu'insiste le Miz. Hein. Il y aurait eu disqualification, le match aurait dû s'arrêter, etc. C'est vrai, donc ça fait. Mais j'ai trouvé que c'était un litige très bien écrit et très intelligent. Ça change du ref bump ou de ces autres conneries ou des twins magiques, tout ça. C'est la première fois que je vois un coup comme ça et c'était vraiment sympa. Le match hors de ça était bon. Le seul truc que je dirais, c'est un petit peu comme les American Alpha. Je trouve que cette ceinture intercontinentale qui a été si prestigieuse passe presque au second plan là dans la rivalité avec entre les histoires de Maryse, de René Young, les baffes et tout. En fait, on dirait pas vraiment que Ambrose voulait spécialement cette ceinture. Il voulait juste taper le Miz, quoi. Et bon, le voyage à la champion, c'est un champion de prestige toujours et ça va donner une rivalité intéressante. Mais c'est vrai que à choisir, après une année 2016 énorme, moi j'ai l'impression que cette ceinture elle doit rester propriété du Miz et c'est lui qui l'a rendue si grandiose, donc je vais prendre fait et cause pour lui là. Il a raison.
Giscal.
Moi je pense qu'il va la regagner dans pas trop longtemps quand même. Mais bon, après je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Si tu trouves que ça fait baisser le prestige de la ceinture, je trouve pas, parce que Dean Ambrose c'est quand même pas ouais. N'importe qui. Et puis le Miz est très fort pour dans la défaite pour faire justement ouais. ressentir toute sa détresse ouais. d'avoir perdu le titre. Il est très très fort pour ça. Donc justement, ça montre quand même que ça comptait beaucoup et qu'il veut absolument le récupérer. Donc ça m'a pas trop chagriné. Par contre, moi, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Je trouve que c'est un litige très intelligemment écrit parce que stricto sensu, oui, il y a disqualification. Bon, voilà, c'est parce que c'est ce à quoi on nous a habitués pendant des années, c'est classique, intervention, disqualification, bon bah voilà. Après, faut pas non plus nous prendre pour des jambons.
Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu cette expression, merci Giscard, hein, le
Non
fossoyeur de
mais
la langue française.
non mais enfin je pense que enfin c'est ça reste logique on va dire comme réaction de l'arbitre bah de se dire ouais bon c'est vrai il a peut-être pas tort je peux peut-être me contenter d'exclure Maryse quoi elle lui a pas mis non plus un coup de gong ou un coup de ceinture ou un coup de chaise tu vois elle lui a mis une petite claque donc moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que le Miz a toutes les raisons du monde d'aller se plaindre. Et ça rentre complètement dans sa storyline avec les connivences, Daniel Bryan qui est contre lui, l'autorité qui est contre lui, patati patata et tout. Ce qui est très original, cette dynamique hein, de heel face, d'autorité inversée comme ça, ce qui est vraiment très sympa. Et en même temps, on est dans un cas typique où le heel se fait ridiculiser, le face profite un peu, mais c'est pas, ça n'a rien de scandaleux, on peut tout à fait l'accepter. Donc c'est plutôt bien joué, ça marche, le public mord à fond. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et puis ça donne un rebondissement assez inattendu dans cette histoire, parce que enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ce que Dean Ambrose prenne la ceinture ici. Enfin, là, vraiment, on était parti pour un truc classique. Le near fall sur le coup de la ceinture dans la nuque est vraiment magnifique. Enfin, tout le public a sauté quand Dean Ambrose s'est relevé. Même si, justement, ça, je m'étais noté, je voudrais profiter de ce near fall pour souligner quand même que je trouve que Dean Ambrose est assez mauvais.
Ouais, c'est
Dans...
tout.
Non mais
Merci.
je trouve qu'il est assez mauvais, contrairement ne serait-ce que par exemple si tu prends quelqu'un que personne n'aime mais Roman Reigns, il y a la veille à Raw, je trouve que Dean Ambrose est très mauvais pour les near falls à 2,9, tu vois. Genre il sait pas, il se relève toujours un peu trop tôt, je trouve. Alors qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que lui. Voilà, je trouve que il l'a fait plusieurs fois dans le match, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais bon, bah
Ah, c'est tout
sinon,
un art hein, de se relever à 2,9
non,
ici.
franchement, c'est un art. Et genre même
On parle
Ziggler
pas.
l'avait fait plus tôt dans la soirée super bien aussi. Il y a des mecs qui savent mieux vendre ces moments très très cruciaux des matchs. Et je trouve que Dean Ambrose n'a pas été excellent. Et d'ailleurs, de manière générale, tu parlais du retour un peu du moveset Lazy, Dean Ambrose et tout. J'ai trouvé que sur ce match, il avait été plutôt décevant et un peu mollasson. Je trouvais qu'on avait retrouvé le Dean Ambrose de avant AJ Styles là. J'ai pas été très très satisfait de ça, donc mais bon. Mais voilà, sur l'angle de manière générale, moi j'ai trouvé ça génial. Hein. Franchement. Et puis Raphaël avait raison de mentionner le Talking Smack qui a suivi parce que c'était très intéressant et le Miz a encore sorti une promo exceptionnelle à Talking Smack. Donc, je conseille d'aller voir. C'était pas mal.
Ah, c'est définitivement une des révélations de l'année 2016, ce Talking Smack. C'est pas le catcheur de l'année, mais peut-être le show de l'année. Messieurs, donc c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. On va donc passer au mot de la fin. Top, flop et note. Bah, Giscard, je te laisse continuer sur ton élan. Ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown du 3 janvier.
Bon, alors, mon flop, je vais tirer un peu sur l'ambulance, mais bon, j'ai trouvé, je vais le donner à la fois à Nikki Bella et à Natalia. J'ai trouvé que c'était le moment le plus décevant de l'émission. Et je ne veux pas les départager, même si je trouve que Natalia a vraiment été très très faible. Enfin, de manière générale, j'ai bien aimé ta petite comparaison. On avait l'impression qu'elle répétait une pièce de théâtre. C'était. Voilà, elles étaient plantées au milieu, il n'y avait aucun body, enfin aucun jeu corporel, aucune intensité. Elles récitaient leurs lignes qui étaient très très mal écrites. Donc voilà, c'est dommage pour elles. Et mon top, je vais le donner sans honte à John Cena, puisque voilà, j'ai trouvé que sa promo était dingue. Et si je devais le donner à même à un moment encore plus précis, je donnerais quand sur la fin de la promo. Où il dit à AJ Styles, écoute, au Rumble, ramène ta famille, tes amis, genre tout le monde, ton chien, ton chat, ton talent, bring it all, your A game, mais je vais quand même te botter le cul parce que je suis John Cena recognized. J'aime beaucoup ce nouveau John Cena, beaucoup plus. Il en a plus rien à péter, allez tous vous faire foutre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis bah ma note, je vais donner un petit 4 classique. Bon
Vintage Giscal.
épisode. Vintage Giscal, j'ai l'impression que je donne beaucoup 4 quand même. Non, mais enfin, ouais, super épisode. C'est encore une fois gros main event, des beaux matchs, des belles promos. On continue. Chaque fois, SmackDown plante bien le décor pour la semaine d'après. C'est... Moi, j'ai rien à dire. Hein. C'est vraiment bien.
Raphaël, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Je pensais que ça allait être pris, mais alors on va être très complémentaires. Moi, mon flop, ça va être le gaspillage, effectivement, un peu de Breezango. Et comme l'avait dit Giscard, donc je ne reviens pas là-dessus. Mon top, je le donne au Miz, qui est toujours aussi excellent au micro et qui a fait une belle performance. Et ma note, je vais donner 4 aussi.
Et ben voilà, voilà qui est dit. Donc me concernant le top, je vais le donner au Baron. qui n'a pas déçu une fois de plus lors de son match avec Dolph Ziggler, plus ce petit push là auquel il a droit, donc en s'incluant dans la title picture, en tout cas dans le main event, en venant se frotter un petit peu au patron, au boss du ring. Et mon flop, voilà, pour moi j'ai écrit toute la division féminine et j'ai inclus également le segment Becky Lynch, Alexa Bliss, la Luchadora. C'est le meilleur segment des trois, mais voilà, je vois un petit peu un carton jaune pour la division féminine. Même si ce que tu as dit tout à l'heure, Giscard, est vrai, au moins elles sont là et on écrit des choses pour elles. Voilà, mais bon, c'est pas terrible.
Non, c'est vrai.
Ma note, c'est 3,75, ce qui reste tout à fait correct puisque on est très proche du 4 de Giscard. Messieurs. Et de Raphaël, oui, évidemment, qui va devenir, donc c'est Vintage Raphaël, 4 sur 5. Oui, c'est ça, les notes sur le supplément SmackDown. Je rappelle à tous nos éditeurs qui peuvent nous suivre sur iTunes, PodCloud, également YouTube pour la vidéo. N'hésitez pas à aller voir donc le fameux Top et Flop 2016 qu'on vous a concocté avec toute la bande, toute la team de Catch-Up était là. 2 heures, ça paraît un peu long, mais croyez-moi, ça vaut le coup. On parle vraiment de ce que la WWE a offert de meilleur et de pire pendant un an.
Et nous, on vous offre le pire, les Money Makers.
Ouais, voilà.
C'est ça, choisissez votre camp. Quoi dire d'autre? Oui, allez sur les cahiers du catch. Les cahiers du catch, en ce moment, il y a plein de choses intéressantes à dire parce qu'il y a les cahiers du catch awards. Donc, c'est pareil. On a décerné, la rédaction a décerné ses récompenses annuelles. Et également, toujours normalement, la possibilité de voter pour la ceinture de plomb 2016. Oui, oui. Ça, c'est très toujours. Important. C'est un vote
très important.
Ouvert au public. Donc, lescahiersducatch.com. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, si je puis dire, pour un nouveau numéro du supplément SmackDown. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de catch à toutes et à tous. Salut Giscard et salut Raphaël.
Salut Irem, salut tout le monde.
Salut.
Ciao.
Ça m'avait manqué, moi.